Vous écoutez
RMC.
RMC, 19h20, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à Carcassonne au terme de cette 15e étape du Tour de France. Une nouvelle fois, une étape animée du début à la fin du kilomètre zéro jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée ici à Carcassonne. Et la victoire d'un équipier modèle, plus qu'un équipier modèle. Il est champion de Belgique et il s'impose aujourd'hui avec vraiment une maîtrise totale. Tim Wellens, donc vainqueur de cette 15e étape qui nous a régalé. La bande des GG est en place. On va fêter la Belgique ce soir, messieurs.
Mais oui, à la veille de la fête nationale.
Ah, exactement. J'espère que vous avez, que vous connaissez les paroles de la Brabançonne.
Moi, j'ai fait la moitié de ma carrière en Belgique.
C'est vrai que tu connais.
Comme si j'avais gagné.
Donc tu connais la Brabançonne, tu peux nous la chanter.
Ah, non, d'accord. Je connais la flèche Brabançonne, mais pas la Brabançonne.
Pierre-Yves Leroux également avec nous et notre invité, nos invités ce soir, puisqu'on va célébrer la Belgique. Samuel Grulois, qui est notre confrère de la RTBF, qu'on est ravi d'accueillir.
Le roi, la loi, la liberté. C'est la fin de la
Brabançonne. Ah, c'est la fin. On aurait bien aimé toutes les paroles. Ça va, Samuel ?
Mais ça va très bien.
Mais calme. C'est incroyable.
On marche
sur l'eau.
5
victoires d'étape.
On marche sur
l'eau. Pendant que nous, on a zéro. Les Italiens en ont une. Les Espagnols,
Les Slovènes, 4.
Les Slovènes, oui. Non, mais parmi les grandes nations originelles du cyclisme, vous êtes quand même ceux qui vous en sortez le mieux. Quand même.
On a eu des années de vaches maigres. Hein, mais ici, c'est vrai, depuis quelques années, avec la génération actuelle, c'est quand même...
Est-ce que vous avez fait un Tour de France sans victoire ?
20e, sans doute un. Entre 2005 et 2010, pour y retourner dans
les archives. On va regarder ça. Je vais te trouver ça, je vais te dire.
Tu m'as et trouvé. Vous, est-ce que vous avez fait un Tour de France pour victoire ?
99. C'était mon deuxième.
Okay. 1926 et 99. 1926, ça compte un petit peu moins, mais.
Je me souviens de la porte qui avait sauvé la situation.
Oui, voilà.
L'avant-veille de l'arrivée.
Ah, oui,
ça peut encore arriver.
Ou c'était
gars.
Le soulagement, mais je ne sais pas où ça va arriver. C'est ça le problème. On va essayer d'en savoir un peu plus tout à l'heure. On va d'abord réécouter ce qui s'est passé dans cette étape complètement dingue. C'était donc tout à l'heure dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous et bienvenue sur la route du Tour de France. C'est la 15e étape aujourd'hui. Nous avons quitté les Pyrénées.
Chute dans le peloton. Au milieu de peloton, il y a une chute à la morge de ce pont là.
Lipovic s'est touché.
Julien Alaphilippe qui se tient l'épaule. Aïe.
97 km encore et c'est Julien Alaphilippe, voilà, qui passe à l'attaque avec Matteo Jorgensen dans sa roue, avec Tadej Pogacar, avec Jonas Vingegaard. Julien Alaphilippe qui en remet une. Et derrière, il n'y a plus que 20 secondes et devant ça ne s'entend plus. Ça ne s'entend plus devant.
Warren Barguil, il est en train de rentrer à l'arrière, tant mieux parce que c'est une bonne chance. Lui aussi a une bonne pointe de vitesse.
Vite, Warren Barguil, c'est un très bon grimpeur bien sûr, mais il a une très bonne pointe de vitesse. Donc c'est très bon pour le coureur français. Mais voilà, est-ce que c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir notre première victoire française? Il est malin et il va très bien.
Alors que Tim Wellens essaye de placer une attaque sur la gauche de la route, est-ce qu'on va réagir? Personne ne réagit pour le moment. Personne ne réagit. C'est Warren Barguil qui va réagir alors qu'il vient de rentrer. Warren Barguil qui
costaud,
ouais. Ouais, il est costaud aujourd'hui pour aller chercher Tim Wellens. Quinn Simons dans un second temps a réagi également. Ça y est, la bagarre est lancée dans ce groupe de 8.
RMC, la flamme rouge.
Et il serre le poing, le Belge Tim Wellens qui va aller chercher une magnifique première victoire sur le Tour de France. Tim Wellens qui se lève sur ses pédales, qui serre les deux poings très très heureux. Il envoie des baisers à la foule. Tim Wellens passe à l'instant la ligne d'arrivée, vainqueur aujourd'hui à Carcassonne. Kampenaerts est deuxième et derrière on va avoir Wout van Aert très certainement à la lutte avec Julien Alaphilippe qui va peut-être
Julien.
Le battre. Attention,
Julien,
avec Axel Laurence, ça sera
Julien.
Pour van Aert.
Non,
Alaphilippe et à Alaphilippe qui
c'est Alaphilippe qui fait troisième.
Je ne sais pas s'il fait trois.
Il lève les bras comme s'il avait gagné.
Je ne suis absolument pas certain qu'Alaphilippe ait vu qu'il y avait du monde devant. Hein. C'est le meilleur résultat des Français sur une étape.
Et bien, on se rapproche. Disons, je pense qu'en quatrième semaine, on sera bien pour aller chercher une victoire d'étape.
RMC, l'After Tour.
Voilà, on sera bien en quatrième semaine pour aller chercher une victoire.
Non, mais on avait gagné.
Une troisième
on avait gagné. Aujourd'hui,
oui,
c'est un Français qui lève les bras. Enfin.
Il est presque français. Il parle français en tout cas.
Non, mais Julien a levé les bras.
Julien a levé les bras. Il vit en Belgique. Je tiens à le signaler.
Tim Wellens qui s'impose donc aujourd'hui avec le maillot de champion de Belgique. C'est le 5e succès d'étape pour nos amis belges. Quel succès incroyable. C'est aussi le 5e succès pour la formation UAE. Et c'est un équipier modèle, Pierre-Yves. C'est un garçon extraordinaire. souvent dans l'ombre de son équipe, de son leader, mais qui, dès qu'il a une carte blanche pour y aller, ben, c'est mettre au fond.
Nos invités vont pouvoir parler de Tim Wellens mieux que moi, mais c'est vraiment le symbole de la victoire de l'expérience aujourd'hui. Si c'est un garçon, qui est pro depuis 13 ans, je crois, et puis, qui a aussi baigné dans le cyclisme tout jeune, ses trois frères, son père et ses deux oncles étaient professionnels, et ils ont même fait le Tour de France 1981 dans la même équipe. Ils ont fini tous les trois, et ça, c'est unique dans le Tour de France. Ça n'existe pas. On a eu les frères Simon, mais pas en même temps, nous.
Son oncle Paul a gagné deux étapes sur le Tour de France, donc il fait aussi bien que son tonton.
Donc il a vraiment baigné dans le milieu, et puis derrière il a été longtemps chez l'autre. On le surnommait Rain Man parce que c'est un garçon qui
n'aime pas la chaleur.
Il aimait pas particulièrement la pluie, mais il gagnait plus sous la pluie en fait. Donc ça.
Non, il avait un vrai souci. Moi je me souviens des images de Tim Wellens au début de sa carrière quand il faisait chaud comme aujourd'hui. Si son cuissard était noir, il était tout blanc avec les selles perdues en fin d'étape. Et c'est vrai qu'il a travaillé pour améliorer.
Et travailler aussi avec une petite pilule maintenant qu'on avale pour connaître justement la chaleur du corps. Et il a travaillé sur des rouleaux dans une atmosphère très très chaude pour combattre en fait ce mal qu'il avait à être sur les chaleurs. Il a gagné, je crois, le championnat de Belgique alors qu'il faisait très chaud du côté de Binche il y a un mois.
On s'est fait la même remarque il y a un mois à Binche. Il était sorti aussi à 30-40 km. Il a fait exactement la même chose aujourd'hui que ce qu'il a fait à Binche dans les mêmes conditions climatiques. Et clairement, mais il a appris à gérer depuis son transfert chez UAE ce type de climat.
Et il est devenu champion de Belgique. Comment est vu ce garçon en Belgique? Quelle image il a?
D'abord, c'est un, je mets des guillemets, un vrai Belge. Il a cette qualité que tout le monde n'a pas. Je ne l'ai pas.
C'est quoi un faux Belge?
En tout cas, le vrai Belge, c'est celui qui est capable de parler parfaitement le néerlandais.
Tu as raison. À tel point que je me demandais s'il était flamand ou wallon.
Quand il parle en français, vous vous dites, c'est pas parfait. Ah, quand pas il loin. Parle en néerlandais, il y a peut-être encore des nuances à apporter. J'ai la même chose avec mon consultant, et vous l'entendrez après, Rick Verbrugge, qui a été à l'école en Wallonie, mais qui a des parents flamands. C'est super. Moi, j'ai pas eu cette chance, et donc j'ai des lacunes en néerlandais. Donc ça, c'est une première chose. On ne peut être qu'apprécier au nord et au sud du pays. Philippe Gilbert faisait l'effort de parler néerlandais. Arnaud Delis fait l'effort de parler néerlandais. C'est vraiment
Remco.
Important. Remco, c'est la même chose aussi. Ouais. Presque parfait bilingue. Et ça, c'est une qualité pour avancer. Donc, il est apprécié pour ça. Il était apprécié très jeune parce qu'il avait une facilité avec la presse. C'est un garçon souriant, très bien élevé. Jamais un mot au-dessus de l'autre. Dans les deux équipes où il a roulé, il n'a eu que deux équipes, les Lotto et l'équipe UAE. Il est très apprécié pour ce savoir-vivre, et c'est important. Moi, j'ai pas été coureur pro, mais j'imagine que quand on passe du temps dans le bus, à l'hôtel, si on a un gars qui est pas sympa à côté de soi, ça peut vite devenir embêtant.
Les deux qu'on a en face, nous, par exemple, c'était pas facile.
Donc c'est une qualité. Et maintenant, si je me reporte au début de sa carrière, je me souviens, à l'instar d'Evenepoel, à l'instar d'un Kian Heusdebroeks, à l'instar d'un Yarno Widar désormais, on a vite fait de lui le futur remplaçant d'Eddy Merckx. Vous courez derrière le successeur de Bernard
Hinault.
On court derrière le successeur d'Eddy Merckx. Et de Lucien Van Nimp, qui est vraiment le dernier Belge vainqueur du Tour. Et donc ça a pesé sur la carcasse du garçon. Il le dit lui-même, on en est tous convaincus. Et une fois qu'il a accepté le fait qu'il ne pourrait pas s'illustrer sur les grands tours, il y a déjà eu un premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est quand il a pris le pli de changer de crèmerie, parce que ce rôle de leader chez Lotto ne lui convenait peut-être pas, ou du moins la gestion de l'équipe avec ce rôle de leader ne lui convenait pas. Et à 30 ans, il a pris le parti d'aller chercher certes un gras salaire, ça on va pas le cacher non plus, il vit à Monaco, enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent faire grincer des dents aussi en Belgique, il ne paye pas les impôts chez nous. Mais c'est vrai, mais soyons carte sur table. Moi j'aime beaucoup Tim Wellens pour plein de raisons, ça c'est un peu plus embêtant, mais pour le reste, je pense qu'il a fait le bon choix et il l'a déclaré à l'interview. Il saisit les quelques opportunités qu'il a. Il en a eu deux en un mois. Il les a saisies. Le titre national, l'étape aujourd'hui. Et à partir de mardi, sur l'étape du Ventoux, il sera au
top. Il va redevenir un équipier modèle, c'est ça.
Mais c'est compliqué quand vous avez été sous les feux de la rampe comme il l'a été. On a fait de lui un futur vainqueur du Tour, d'accepter, et il y a plein de coureurs qui ne parviennent pas à passer ce gap, d'accepter de redevenir, entre guillemets, parce qu'on a beaucoup de respect pour les équipiers, un équipier de luxe, mais un équipier. Il l'a accepté, je trouve qu'aujourd'hui c'est une belle récompense pour un garçon qui a réussi à passer ça.
C'est signe d'intelligence, tout simplement. On l'a présenté comme un garçon bien élevé et très intelligent.
sa façon de courir aujourd'hui, il l'a prouvé. Il est donc très intelligent, donc il comprend, il a trouvé sa place dans ce cyclisme-là. Il peut durer encore très longtemps parce que on le voit, il est équipier. Et tout à l'heure, on va évidemment débattre. Les Français en gagnent pas, mais on a combien de Tim Wellens en France ? On n'en a pas, hein. Cherchez pas, on n'en a pas. Tim Wellens est un coureur exceptionnel. C'est un coureur qui est capable de s'imposer sur tous les terrains, de les donner, de rouler.
Ouais, 134e coureur, justement, à s'imposer voilà. Sur les trois grands tours.
114. Et on le présente comme pas un coureur de grand tour. Ouais, pour pas gagner le général. Mais pour tout le reste, il sait tout faire. C'est-à-dire que c'est un coureur qui veut prendre le départ de l'étape de moyenne montagne à Majorque en janvier, il peut gagner, et il a déjà gagné.
Il est toujours très fort en début.
Et il va aller autour de Lombardie, il peut aussi gagner. C'est-à-dire que c'est quand même un coureur qui est largement au-dessus des autres, et au service d'un leader.
Et il gagne quand même des courses d'une semaine. Il a gagné le Tour de Pologne, l'Eneco Tour 4 fois. Donc en plus, il roule bien chrono. Il sait défendre un maillot. Il spécialise des classiques flandriennes et ardennaises. Même, il est bon sur les deux formats. En fait, il est bon partout, hein, Tim Wellens, sauf peut-être la très haute montagne.
Et pourtant, aujourd'hui, on a l'impression que les coureurs qui étaient échappés avec lui ne se rendaient pas compte qu'ils avaient Tim Wellens derrière et qu'ils ne passaient pas un relais. Et ils l'ont emmené quand même jusqu'à son échappée victorieuse. Mais il faut quand même courir un peu intelligemment.
Simon Yates fait la même chose sur un autre type d'étape, mais c'est aussi un équipier d'un des favoris, l'équipier de Vingegaard. Il n'a pris qu'un seul ou deux mini
relais. Oui, tu as raison. Et en plus, vainqueur du Giro quand même. Alors voilà. Lui, il est encore un pédigré.
Sur l'étape du Puy de Sancy, et puis à la fin, il flingue tout le monde avec l'argument je suis un équipier de Vingegaard. Aujourd'hui, Wellens leur a dit je suis un équipier de Pogacar. Après, si les gars ne voulaient pas rouler avec lui, ah ben, il n'avait qu'à pas rouler avec lui. Mais de nouveau, moi, je suis pas un ancien professionnel et je vais pas ici parler à la place des anciens coureurs et ils le font mieux que moi. Mais effectivement, il était là, il ne prenait pas de relais, il ne l'a pas fait, il a gagné.
Non, mais comme tu le dis, on peut faire un copier-coller de ces 50 kilomètres dans les tout premiers kilomètres de l'étape où il est dans les roues et il profite de son statut. Je suis équipier du leader. Bah, tu mets ses 45 km ou 50 km à la fin, il les a fait tout seul.
La différence, elle est là.
C'est l'énergie qu'il avait dans le final. Il a attaqué exactement dans les interviews, il dit, j'avais prévu d'attaquer là. C'est là qu'il fallait attaquer. Il a laissé la jeunesse. Warren Barguil, dans son interview, le dit, ils sont fous, ces jeunes, ils savent pas courir, ils attaquent n'importe comment. Lui, il a géré la partie la plus raide de la bosse à son rythme avec Kampenaerts et il a attaqué exactement à l'endroit où ses qualités sont au-dessus des autres, c'est-à-dire toutes pleines de puissance. Il a profité des premiers mètres dans la descente et une fois que Tim Wellens a 30 secondes d'avance, eh ben c'est fini.
Et il a 34 ans. Oui, dans le cyclisme actuel, on est annoncé à 34 ans parce qu'on est dans une période de jeunisme. Voilà. Et même dans nos métiers, hein. Moi, à l'RTBF, je suis peut-être déjà un ancien.
Je t'en parle même pas.
Je sens la jeunesse pousser dans mon dos. Mais ici, allez, on avait Roméo tout à l'heure qui était sorti avec Van Aert. On avait l'impression d'avoir déjà Papy Van Aert et le Benjamin du Tour. Roméo, ces gars-là, ils sont là, ils poussent. On passe la catégorie espoir et on arrive directement sur le World Tour. Et là, c'est sympa, je trouve, d'avoir un trentenaire qui vient mettre les points sur les i.
Alors Samuel, tu es venu avec ton consultant, on va lui donner la parole parce que
excellent consultant. Les deux dans le sud.
Ils le connaissent bien. Rick Verbrugge, ancien vainqueur d'étape sur les routes du Tour, c'était il y a quelques années. Bonsoir Rick, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Rick, donc qui a ensuite été sélectionneur de l'équipe belge et qui a été, alors ça, je me rappelais pas, qui a été le manager
notre patron, notre
de
patron.
Ces deux-là. Des deux Géraux.
Ah, ouais, ça devait être marrant.
Mon pauvre ami, ça a dû être dur quand même, ça, d'avoir ces deux-là.
Ben non, c'était des coureurs qui avaient de l'expérience quand ils étaient chez moi. C'était à l'époque de IM Cycling. Bon, Jérôme.
Chez Quickstep avant nous.
Quickstep avant, ouais. On n'a pas gagné une étape du Giro ensemble.
Évidemment.
Ah, ben là, déjà qu'il passe plus entre les portes. Alors là, si tu lui rappelles son grand succès.
Non, mais c'était un plaisir de travailler avec eux. Et bon, de les voir ici, ça, c'est marrant, quoi.
Ben oui, vous retrouvez quand même quelques années plus tard. Rick, 5 victoires d'étape pour les Belges. Mais c'est complètement incroyable ce que vous êtes en train de faire. Ce pays. En plus, vous êtes capable de gagner dans les sprints, dans les étapes de baroudeur,
dans les chronos.
Dans les chronos avec Remco. Bon, il manque encore le grand montagnard qui était Van Nîmes, par exemple. Et ça, vous ne l'avez pas encore en stock, mais bon.
Il arrive, il arrive. Mm-hmm.
Ben, vous savez, en Belgique, on a vraiment cette culture de classique et pour les coureurs de course à étapes, c'est parfois plus compliqué parce qu'on. Il y a énormément d'attention médiatique autour des classiques que les autres, ils ont un peu moins d'attention par les médias. Et donc, on les oublie un petit peu. Des fois, on les fait travailler aussi plus dans les classiques en disant, ouais, mais il faut quand même apprendre le métier, il faut aller faire ces courses-là, les Flandriennes, c'est important. Et on les transforme un tout petit. Maintenant, la dernière génération qui est en train d'arriver, ben, ce sont des coureurs qui sont très complets. Comme un Pogacar, comme un Vingegaard, lui c'est vraiment plus spécialisé sur le Tour de France, mais un Pogacar il peut tout gagner. Et je pense qu'un Remco Evenepoel c'est exactement la même chose. C'est un coureur qui est capable de tout gagner. Le Tour de France il l'a pas encore prouvé, mais moi si je peux donner un conseil à Remco, et j'ai travaillé avec lui dans l'équipe nationale, c'est tout simplement de lui dire, eh ben va faire ton palmarès ailleurs, sur toutes les courses où Pogacar n'est pas là et son règne va s'éteindre à un moment donné et là il faudra revenir et essayer d'aller gagner un Tour de France. Et je pense qu'il en a vraiment les qualités pour.
Le problème, c'est que je pense que certains vont conseiller à Vingegaard de faire la même chose et que Pogacar va être tout seul à sur les grands tours. Ça va être un problème.
Oui, mais si je prends le cas de Remco Evenepoel, je pense qu'un Vingegaard est à portée de main pour lui. Je ne dis pas qu'il est meilleur que lui, mais il est capable de le gagner, quoi, un grand tour avec Vingegaard aux alentours de lui.
Je sais qu'on fait un peu cette comparaison aujourd'hui. On a 5 étapes pour les Belges et 0 pour nous. Rick parle de cette culture qu'on a changée en Belgique. Mais comment on s'est mis les moyens de changer les choses? On a, par exemple, au sein de la Fédération belge, dis-moi si je me trompe, une cellule grimpeur avec un ancien coureur cycliste professionnel. Je sais pas si c'est Serge Powels qui s'en occupe. On a créé ça. On a créé un groupe de travail avec des jeunes talents pour aller travailler à la montagne, pour aller travailler les courses par étapes. Chez nous, on n'a pas ça. On ne peut pas s'étonner ensuite que lorsque la nouvelle génération arrive, on a des noms émergents chez les Belges et chez nous de moins en moins.
Écoutez, vous avez quand même des très bons coureurs aussi. Hein, parce qu'un Romain Grégoire, il y a des coureurs qui sont capables de bien faire. Maintenant, ce qu'on a fait à la Fédération aussi, et moi j'étais présent quand je travaillais à la Fédération, c'est qu'on faisait des appels. Parce qu'en Belgique, on a difficile pour détecter chez les jeunes des talents qui sont des grimpeurs. C'est vraiment compliqué. On n'a pas le parcours pour le faire.
Bien sûr.
En France, on a la classique des Alpes chez les juniors. On voit tout de suite quels sont les meilleurs. En Belgique, on fait un appel sur Internet pour aller chercher les jeunes. Si vous pensez que vous êtes un grimpeur, inscrivez-vous.
C'est incroyable, ça.
Et on fait des tests et on a les temps depuis Remco Evenepoel. On sait les temps qu'ils font sur la montée du Rosier en Belgique et après on fait des stages pas en montagne, en Alsace, sur le ballon d'Alsace.
Ah oui, exact.
Et on a des références des coureurs depuis.
En plus, vous venez travailler chez nous.
Ils vont tous travailler en Espagne, les Français, vous venez travailler en France.
Alors qu'il faut travailler sur le ballon d'Alsace. On ne savait pas que la solution était sur le ballon d'Alsace. Et je regarde une petite statistique, on se demandait avec Samuel tout à l'heure s'il y avait des tours où il n'y avait pas eu de victoire belge. Il y en a quand même eu un certain nombre et ça vient conforter ce que vous disiez à l'instant. C'est-à-dire que de 2009 à 2018, il n'y a que 6 victoires d'étape belge en 10 Tours de France. En revanche, depuis 2019, 3 victoires, 2 victoires, 5 victoires, 6 victoires, 5 victoires, 5 victoires, 5 victoires déjà en 2025. C'est une énorme régularité par rapport aux Français où on est à 2, 1, 1, 1, 3 l'année dernière et 0 pour l'instant.
Mais après, ça vient aussi de la culture. C'est-à-dire que
et de ce travail qui a été fait.
Oui, et puis cet engouement qui est redevenu super important pour le Tour de France avec justement l'émergence de cette génération. On ne pense plus que classique. Ouais. Moi, je suis arrivé chez Quickstep en 2009. Le Tour de France, c'était après.
Ben oui, alors justement, je voulais en parler.
Si on en gagnait.
C'est-à-dire qu'on sait que le Tour de France est peut-être pas la course la plus importante pour les Belges. C'est le Tour des Flandres. Or, vous l'avez plus gagné depuis 2017 quand même, Rick. Et là, ça doit commencer à grincer, non?
Oui, là, ça fait rage. Hein.
Voilà, on se rattrape comme on peut. Nous, on l'a toujours pas gagné depuis Jackie Durand. Donc,
mais il y a eu aussi sur le Tour des Flandres un tournant dans l'équipe majeure, en tout cas celle qui est la tête de gondole du cyclisme belge. Chez Quickstep, il n'y a plus les Tom Boonen, il n'y a plus tous ces garçons-là. Aujourd'hui, le leader est un garçon pour le classement général. Donc tout suit en fait.
Oui, bon. Justement, ça c'était une de mes questions pour toi, Rick. Tu parles de Remco Evenepoel qui potentiellement peut gagner le Tour de France. On sait que l'équipe Soudal Quickstep est un peu limitée autour de lui. Toi, si tu étais son manager ou son agent plutôt, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Pas facile pour un Belge comme question. Est-ce que tu lui conseillerais de changer d'équipe pour être mieux entouré ou est-ce qu'il peut vraiment gagner le Tour de France dans cette équipe-là?
Honnêtement, je pense pas qu'il peut gagner le Tour de France en restant chez Soudal Quick-Step. Maintenant, je dis pas que c'est impossible, mais il faudra reconstruire cette équipe qui n'est pas aujourd'hui, elle n'est pas capable de le faire. Elle n'a pas les reins forts assez comme Visma ou comme
financièrement, tu parles ou
financièrement aussi. Mais bon, voilà, je pense que des équipes comme Ineos, ils ont cette expérience, ils ont aussi les budgets nécessaires pour attirer des grands coureurs. Et il faut quand on voit UAE, il y a des coureurs comme Yates qui sont là pour. Enfin, ce sont des leaders. Ils vont chez Soudal Quickstep, ils sont en concurrence directe avec Soudal. D'ailleurs, Almeida, ils ont dû le laisser partir de Quickstep parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers de le garder. Mais ça, ce sont des coureurs qui peuvent aider un Evenepoel à gagner. Donc, je pense pas qu'ils puissent le gagner chez Quickstep. Maintenant, je dis pas que c'est impossible, mais il devra aller voir ailleurs pour gagner.
Dans l'immédiat, c'est quasiment impossible.
Très bien. Merci Eric Verbrugge d'être venu au micro d'RMC. On vous retrouve avec Samuel tous les jours sur la RTBF. Vous faites comme nous, intégrale.
L'intégrale à partir de 15h. L'intégrale à partir de 15h. On a un débrief qui s'appelle Complètement Tour, qui est un peu votre rival en toute humilité. Mais il y a moyen maintenant, puisque tout est podcasté, d'écouter.
Exactement, d'écouter voilà. les deux.
Moi, sachez, et c'est vrai, que je vous écoute régulièrement dans la voiture. Et j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous nous écoutez également.
Ils ne peuvent pas commencer trop tôt parce que leur consultant fait les derniers kilomètres de l'étape en vélo.
Ben il roule, lui, c'est un vrai. C'était pas trop dur aujourd'hui, le final, Eric
C'était vent de dos et tout en descente.
Ah ouais, c'est bien bon, ça.
Il fait les derniers 25 kilomètres.
C'est mieux qu'à Otakam, quoi.
S'il fallait pour moi faire les 25 derniers kilomètres de l'étape de mardi,
en descente, ça va.
Environ vers 5h du mat, quand même.
Merci, les garçon.
Merci.
Et donc, bravo pour ce Tour de France, mais c'est peut-être pas terminé d'ailleurs. Hein. Vous allez pouvoir peut-être
Et bonne fête nationale.
Et bonne fête. Ah ouais. Demain, on va chanter la bravo.
Le roi, la loi, la liberté.
Merci Samuel, merci Eric.
Merci à vous.
19h21 sur RMC. On revient dans un instant à Carcassonne pour continuer de débriefer cette étape. Et donc, réservée une nouvelle fois un coureur belge aujourd'hui, Tim Hollens, qui s'impose. À tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Carcassonne à l'issue de la 15e étape du Tour de France, remportée donc par Tim Wellens, le Belge de la formation UAE, équipier modèle de Tadej Pogacar. On vient d'en parler avec nos amis et confrères belges. C'était un bon moment, un bon quart d'heure belge. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable les succès qu'ils remportent sur la route de ce Tour de France. Un mot quand même sur l'étape, complètement dingue. Ça n'a pas arrêté du début à la fin de cette 15e étape. Une nouvelle fois, la preuve que les étapes de transition ne sont plus ce qu'elles étaient, Jérôme. C'est plus...
ouais, des étapes de transition comme ça, j'aurais pas aimé les faire, moi, si j'avais été encore pro. Alors là, c'est même un peu plus qu'une étape de transition. D'habitude, Carcassonne, c'était une vraie étape de transition arrivée pour les sprinteurs. Là, ils ont rajouté des bosses et ça change toute la physionomie et la tactique de la course. Ça a castagné du début à la fin. En plus, il y a eu cette chute qui a mis un petit peu le bazar en début d'étape. Et finalement, on a eu de nouveau une échappée de costaud et avec la victoire de Tim Wellens. Mais c'est vrai que de rajouter ces difficultés où tu vas éliminer les sprinteurs, bah malheureusement pour eux c'est une occasion à moins, mais où t'élimines les sprinteurs, et bah ça laisse de la place pour les autres, pour les baroudeurs, pour les punchers, et il y a beaucoup plus de coureurs intéressés pour aller dans l'échappée.
Est-ce que c'est une formule, ce Tour de France, il est un petit peu spécial quand même, la patte d'ASO, de l'organisation, elle est forte. C'est un peu une nouvelle formule où les sprinteurs ont pas beaucoup de place. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voudriez que ça soit toujours comme ça?
Ah bah nous on se régale. Évidemment, on doit garder 4-5 étapes de plat pour que les sprinteurs qui sont aussi des stars du cyclisme dans leur domaine...
Mais 4-5, on va pas les avoir là. Hein.
Ben,
4-5, c'est d'habitude, on avait
alors,
ça.
Alors, moi, je vais te dire un truc, c'est qu'il y a Cavendish et il y a Sagan. Les deux sont des grands sprinteurs, non? Sagan, aujourd'hui, il aurait fait une très belle étape. Hein.
Oui, oui.
Il faut aussi savoir passer les bosses. Les étapes full à plat, on s'ennuie.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne se passe rien et c'est pour les sprinteurs.
On se rappelle de ce qui s'est passé l'année dernière où il y a eu des étapes sans aucune échappée.
À Châteauroux, on a eu une très belle étape, ça n'a pas empêché qu'il y a eu un sprint à l'arrivée. Il faut ça. Ce qui fait que les étapes de transition, comme on appelle aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de coureurs qui passent ce genre d'étape. Il y a des coureurs qui ont fait des super. Aujourd'hui, Van Der Poel et Van Aert, c'est des sprinteurs aussi, enfin, ils sont complets, mais ils passent ce genre de boss. Il faut être solide. Pour être dans le tour, pour exister dans le tour, il faut être solide. Pourquoi l'ASO fait ça? Parce qu'à côté, il y a un mec qui s'appelle Pogacar qui gagne tout. Et toutes les étapes de montagne, elles sont trustées par les grands leaders. Donc comment on fait pour exister dans le tour? Il en faut pour tout le monde. Et l'étape, le spectacle offert aujourd'hui et splendide. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas ennuyé un seul instant.
On en parlait tout à l'heure en antenne avec Jérôme. Elles sont plus excitantes et tu t'éclates plus dans ce genre d'étapes que dans les étapes qu'on a eues dans les Pyrénées, alors qu'avant c'était les étapes reines quand même.
Comme vient de dire Jérôme, quand t'as un Tadej Pogacar, bah voilà, les étapes de haute montagne, tu sais que ça va être pour lui. Bien sûr, son équipe contrôle et il domine ces étapes-là, donc il y a plus vraiment de suspense. Après, on va chercher comme hier du suspense où on peut en se disant, oh, est-ce que Tadej Pogacar va pas attaquer trop loin pour pouvoir laisser la victoire à un Redsman. On essaye de se trouver des branches auxquelles s'accrocher. Mais bien sûr, quand il y a un coureur qui domine, du coup, ça tue un petit peu le suspense sur les grandes étapes de montagne qui avant étaient spectaculaires. Et finalement, ces étapes de transition avec des bosses ou de moyenne montagne, c'est là où c'est le plus spectaculaire. Sur les grandes étapes de montagne, comme on a eu à Otakam, etc., déjà au départ, t'élimines au moins 50% du peloton. Peut-être, je dis juste, qui savent au départ. Leur objectif, c'est juste de rentrer dans les délais, déjà. C'est de pas péter trop tôt pour rentrer dans les délais. Après, dans les 50% qui restent, t'en as 40% qui vont se dire, moi, je vais juste essayer d'aller dans le coup pour me montrer un peu à l'avant et avoir un coup d'avance. Puis au final, t'as 10 mecs qui vont essayer de s'accrocher, 10, 15 mecs qui vont essayer de s'accrocher et d'éventuellement battre Tadej Pogacar. Ils savent très bien qu'ils vont pas y arriver, mais au moins 10 ou 15 mecs qui essayent. Donc ouais, t'as pas de suspense sur ces étapes-là parce que t'as un coureur qui domine tout le monde.
Alors, ce qui renforce encore, en plus aujourd'hui, la folie de l'étape, c'est cette chute, malheureusement, ça arrive parfois comme ça. Et on trouve un Vingegaard seul dans un groupe. Ses équipiers qui sont devant,
à l'arrière,
ses équipiers qui roulent devant. Comment vous analysez ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport au classement et par rapport à la position de Vingegaard dans cette équipe?
L'objectif, c'est d'aller gagner des étapes et pour l'instant...
Mais quitte à ce que la deuxième place ne soit plus, le podium disparaisse.
Le débat de ce matin au Grande Gueule du Sport à 9h, c'était est-ce qu'on l'on doit sacrifier Vingegaard pour gagner des étapes? On a la réponse. Sacrifier, non, mais rester vigilant après lui, mais l'objectif n'est plus... de protéger le Danois pour espérer un grand résultat. La place de deuxième, elle est quasiment assurée. Il a besoin d'un coéquipier à ses côtés. Il en avait un. Il y avait Eduardo Affini avec lui.
Et Kuss.
Et après, mais c'est feu de tout bois parce que on peut pas se contenter pour Visma et The Bike de prendre les miettes. Et encore une fois aujourd'hui, on s'est aperçu que quand on formate des coureurs dans une stratégie pour un Tour de France, une fois qu'ils sont laissés la stratégie pour eux-mêmes et qu'ils doivent s'inventer.
On a l'impression de voir courir des poulets sans tête.
Ils savent plus quoi faire. Aujourd'hui, sur cette image-là, pour l'image d'une équipe comme eux, c'est catastrophique. Attaquer à l'avant, rouler à l'arrière. On a encore vu sur le final Kampenaerts s'attaquer, Van Aert revenir. C'est catastrophique. Quand on a connu le granon.
Oui, mais
parce que parce qu'à l'époque, on arrivait, et c'est ce qu'on disait aussi ce matin, on arrivait à réunir tout le monde et à gérer les égos. Parce que c'était pour la gagne.
Mais parce que tu gagnais.
Et là, t'es plus le vainqueur, t'es plus le dominateur. Donc là, ça part à volo.
Ça part à volo, plus les déclarations qu'il y a eu avant le tour, etc. Et là, de voir Vingegaard lâcher, à un moment, il était loin quand même. Hein. Il était à une minute et devant, il n'y avait pas que Van Aert et Kampenaerts. Tu peux dire au départ, allez, on laisse une chose. Voilà, Matteo Jorgensen qui y allait. Alors lui, il est suivi par Tadej Pogacar qui lui laisse pas un mètre. Mais sinon, ils étaient quand même trois devant à provoquer. C'est même pas qu'ils suivaient. Ouais. Normalement, si t'as ton leader comme ça qui est derrière, on va pas forcément faire attendre toute l'équipe. Il y avait Affini, il y avait Kuss, avec Vingegaard. Ça pouvait suffire. Mais tu provoques pas, tu suis les coups, tu suis les vagues qui montent. Eux, ils provoquaient la course. Alors, ils essayaient d'aller. Et d'ailleurs, Tadej Pogacar a fait une déclaration en disant « Moi, si j'étais à la place de Jonas Vingegaard, je serais pas le plus content ce soir à table parce que j'ai rien compris de leur stratégie. »
Bien sûr, il a bien mettre des petits pétards.
Il y a autre chose qui lui a pas plu, c'est qu'à ce moment-là, lui, dans l'oreillette, on lui disait « Bobby, arrête le peloton, il y a eu une chute derrière, il y a Vingegaard derrière, il y a Lipovitz. »
Tout à fait.
Et qu'il a vu Wout van Aert lui passer sur la gauche, il a fait un petit signe d'incompréhension.
C'est exactement ce qu'il dit dans l'interview. Il dit, moi je voulais arrêter, je vois Wout van Aert qui attaque, après Kampenaerts et après Jorgensen. Il dit, moi je peux pas en laisser partir trois non plus de Visma Lise Bak. Donc il dit, j'ai sauté dans la route de Jorgensen, ça devait bien l'arranger. Mais n'empêche que c'est vrai, lui il a un moment fait un geste vers Van Aert en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez votre leader qui est derrière et Tadej Pogacar dit, le tour est pas fini quand même. En gros, il sous-entend que s'il a une défaillance, ou même on lui souhaite pas, grosse gamelle, il abandonne le tour, c'est quand même Vingegaard qui va gagner le tour, potentiellement. Donc oui, à la pédale, il est battu, il est à 4 minutes, etc. Mais le tour n'est pas fini, on ne sait pas ce qui peut se passer. T'as les Pogacar, il s'est bien fait faucher par Johannessen l'autre jour. S'il se pète quelque chose, c'est fini. Mais eux, ils sont en train de déplumer leur leader
C'est signe que c'était le petit élément qu'il leur fallait pour se désunir définitivement. On l'a vu aussi dans le final, GG, ils sont deux Visma et The Bike. À quel moment on a vu aujourd'hui les deux se parler et l'un se sacrifier pour l'autre?
Van Aert est en train de revenir, il est en train de rentrer et Kampenaerts démarre à ce moment-là alors qu'il aurait pu faire le boulot pour lui.
Oui.
Van Aert n'était pas loin.
On l'a vu pourtant décrocher Kampenaerts en train d'attendre Van Aert et puis d'un seul coup, 10 secondes plus tard, on le voit complètement à l'avant en train de lâcher les
gants. C'est le cirque.
C'est dingue.
C'est le cirque Pinder chez.
Et à l'arrivée, la sanction, c'est l'équipe adverse qui gagne l'étape.
Ben voilà, ils se font encore battre et cette fois pas par Tadej Pogacar, mais par un coéquipier.
Puis bien punir et Kampenaerts. C'est un Belge, Van Aert, c'est un Belge, Velen, c'est un Belge. Et je peux vous dire que avec la concurrence mentale qu'il y a dans ce pays entre chaque coureur, parce que chaque coureur a ses 10 cafés où il y a son fan club, c'est la guerre entre les coureurs. Je peux vous dire que là, ça a dû sacrément leur tomber sur le coin du nez à Visma. En plus de la défaite de l'équipe adverse qu'ils détestent, forcément, c'est un autre Belge qui les écrase. On parle pas d'eux, on parle de Velen. Ça va être dur à digérer.
Voilà, Victor Kampenaerts qui se classe tout de même deuxième de cette étape à 1 minute 28 de Velens. Et puis, ils ont bien failli mettre un troisième Belge sur la troisième marche du podium de l'étape. Mais Van Aert s'est fait dépasser au sprint par Julian Alaphilippe. Et cette image incroyable, c'est sans doute l'image du jour, lorsqu'on a vu Julian lever les bras en signe de victoire, brandir le poing avec rage, pensant qu'il avait remporté l'étape. On s'est interrogé dans le camion, en se demandant s'il le savait ou s'il était juste content d'avoir battu Van Aert.
Ça paraît tellement surréaliste pour nous qui voyons forcément toute la course de façon très claire. Nous, on a bien vu qu'il y avait Timo Hellens, qu'il y avait Kampenaerts. Maintenant, on peut comprendre que dans la folie d'une étape comme ça, lui, il n'est pas l'information, semble-t-il, à cause des oreillettes.
Alors,
Il est tombé au bout de 20 km.
Ah, il a vécu une journée très particulière.
Il s'est remis seul l'épaule en se souvenant de comment il lui avait remis la dernière fois à l'hôpital. Il se remet l'épaule. Donc il a été pendant 30 secondes à ne pas savoir s'il allait pouvoir repartir. Il repart, rappelez-vous, à ce moment-là, c'est tout le monde en ligne.
Terrible.
Il y a du vent, il y a des cassures. Il profite de l'arrêt de Vauclin qui change de vélo parce qu'il a un problème. Il rentre avec les BNB, les RK BNB. Il reprennent le groupe. Il y a encore 40 coureurs devant. Il ressort en contre. Il n'est jamais dans le premier coup. Donc il ne sait plus qu'il y est. Oui. Dans la dernière difficulté du jour, il est lâché. Il rentre ici, dans Carcassonne, à 800 mètres de l'arrivée. Voulez-vous qu'il sache qu'il y avait quelqu'un?
Nous, on ne savait même pas qu'il était là.
L'élément principal, c'est que sur la chute, il pète la radio. Donc il n'a plus aucune liaison avec sa voiture. Il ne sait pas ce qui se passe dans la course, à part une éventuelle radio tour sur une moto, ce qu'on n'entend que très rarement, et il n'a jamais l'ardoisier, puisque l'ardoisier est devant le groupe de tête. Donc il n'a jamais su aujourd'hui où il se situait dans la course.
Est-ce qu'à un moment, il y a quand même quelques lignes droites, notamment la dernière, là, le dernier kilomètre, qui est en plus en montée, on n'a pas le temps de lever la tête, de regarder devant?
Non, parce que je pense que quand il rentre, il regarde Van Der Poel, Van Aert. Bon, c'est la gagne. Parce que dans sa tête, c'est les mecs favoris du jour. Donc il s'est dit, je suis dans le bon groupe. Oui. La preuve, il fait ce sprint où il se place merveilleusement bien, il frotte un peu et il bat Van Aert en jetant le vélo. Imaginez qu'un mec comme Alaphilippe ne fait pas le même sprint quand il sait que c'est pour faire deux ou trois. Donc pas su de la
d'ailleurs,
journée.
D'ailleurs, Van Aert l'a pas fait comme si il le faisait.
Par contre,
pour
Van Aert,
lui,
savait où ils en étaient.
Bah, bien sûr. Et puis, quand Julian lève les bras, il le regarde, genre, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Par contre, Julian Alaphilippe était très énervé après la ligne en retournant à son bus. Il a dit, purée, je passe pour un con, la radio, c'est toujours pareil, ça marche jamais. Voilà, il était vraiment très fâché parce que tout champion que tu es, t'aimes pas passer un petit peu pour un idiot, quoi. Et là, bah, malheureusement, il savait pas qu'il y avait les deux coureurs devant. Alors, pour Wellens, on peut le comprendre parce que t'as dit, il était souvent à contre-temps, Julien, à cause de sa chute. Et Wellens avait déjà beaucoup d'avance. Pour Kampenaerts, il était pas très loin. Mais dans le sprint, tu cherches la roue du mec que tu penses être le plus fort pour le coup Van Aert et tu vas pas regarder loin devant. Tu gardes la roue et tu veux pas perdre ta place. T'essayes de garder ta place et après de pouvoir développer ton sprint. Donc, même si quand Van Aert c'était juste devant, bien sûr qu'il l'a pas vu.
On va écouter Julien Alaphilippe qui
Non, en fait, ça me rappelle ce sprint, mais qui est pas pour la victoire. Moi, il me rappelle un sprint et une photo que j'adore parce que j'étais sur place sur l'arrivée de Milan-San Remo où il est à sprinter avec Sagan et Kwiatkowski. Ils sont tous les trois, ils se touchent là sur le sprint. Bon, là, ce jour-là, c'était pour la victoire et ça n'avait pas marché pour Julien Alaphilippe ce jour-là.
Julien Alaphilippe, forcément déçu aujourd'hui. Il a quand même connu un drôle d'ascenseur émotionnel. On l'écoute.
Je me suis battu parce que j'avais des bonnes jambes, mais malheureusement la radio marchait plus après la chute, donc comme un con j'ai fait le sprint pour essayer de gagner. Mais voilà, ouais, le moral ça va. Non, ça va, pas d'arrachement, c'est pas le grave que prévu.
Tu repars mardi.
Let's go. Ouais.
Il repart mardi, donc Julien, je suis passé pour un c'est un con, mais bon.
Il l'a redit sur le plateau de France Télé. Bon, par contre, il doit avoir de sacrées jambes, Julien Alaphilippe. Hein. Il a montré déjà au chrono qu'il marchait.
Mais quel état il fait aujourd'hui ?
Mais je pense qu'on ne se rend pas compte.
Super combatif.
Parce que tu dis, il est resté 30 secondes assis à se remettre, mais c'est bien plus que 30 secondes.
Non, mais il a dit que dans les 30 premières secondes, voilà, il pensait qu'il était à la maison.
Mais le temps qu'il se remette l'épaule, qu'il repart, qu'il change de vélo, qu'on le pousse, il a facilement perdu une minute. Et après, il a fallu sauter de groupe en groupe pour se retrouver.
Et franchement, il aurait mérité d'être désigné super combatif du jour. Mais le problème, c'est que le jury donne sa réponse un peu trop tôt, finalement.
Je crois que c'est Maria pour nous confirmer. Mais 20 km avant l'arrivée, il faut donner son vote, si je ne dis pas de bêtises. Donc, Julien, on ne savait même pas où il était à 20 km de l'arrivée. Il y avait Wellens devant, il y avait le groupe derrière, on avait un petit peu partout.
Il vient faire 3. On est incapable, on n'a pas donné son nom de la journée quasiment.
On l'aperçoit dans le final, on le reconnaît bien, mais avant on ne l'a pas cité, ouais, c'est incroyable.
Bon, on ne peut pas lui redonner demain un prix de la combativité.
Ah bah demain, journée de repos, il sera peut-être le combatif du
coup. Bah voilà, peut-être. On va demander à Maria si elle ne peut pas faire quelque chose quand même, parce que je sais qu'elle a beaucoup d'influence quand même sur ce.
Mais elle a beaucoup de travail aussi.
Ah oui, elle a beaucoup de travail, elle fait le grand 8 tout le week-end, donc ça ne va pas être facile pour Maria.
C'est
pour
pas le week-end par contre. Hein.
Est-ce que Julien, avec les jambes qu'il a, n'est pas en train de devenir finalement la meilleure chance pour une victoire d'étape française.
Attention, il y a un autre Français avec moi que j'ai trouvé très fort aujourd'hui, c'est Warren Barguil.
Oui, qui pestait après la jeunesse de ses compagnons d'échappée. Il était très remonté, très en colère après ce nouveau cyclisme où il dit clairement que les jeunes ne savent pas courir et qu'ils s'attaquent à 30 km de l'arrivée pour la place de deux plutôt que de collaborer. Il était fort aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Et Julien, il l'était aussi. Il y a une troisième semaine à faire. C'est quand même un parcours qui peut convenir à l'un ou à l'autre. On peut peut-être espérer.
C'est les anciens quand même, hein. Les anciens du cyclisme français sont là.
Oui,
sont
alors. Après, on a Géga et Vauquelin. Ouais. Et Axel Laurence.
J'en rajoute un autre. Paul Penouette, dont on n'a jamais
produit. Il était pas là,
c'est
une erreur dans
le classement. Ah, c'était pas lui. Ça a tellement étonné, ouais, quand même.
Erreur. Non, c'est Jasper Stuyven qui fait septième, mais Axel Laurence qui, voilà, Ineos avait raté le coup, ont roulé pour lui, il a tenté de faire le jump, après il est revenu, il était aussi très énervé après la ligne, Axel Laurence, très déçu parce qu'il sentait qu'il avait des bonnes jambes.
Lui aussi, il a des bonnes jambes.
Bien sûr. Et Jordan Gegat, encore une fois. Ouais.
Alors, on va en parler des Français dans un instant. Juste, on écoute Warren Barguil quand même.
Ah oui.
Hein, puisqu'il paraît qu'il est énervé.
C'est hyper frustrant, parce que je pense qu'on fait une belle course, notre groupe, et puis se faire rattraper à kilomètre de l'arrivée. Donc c'est très agaçant, très très agaçant. Parce que dans mon groupe, je pense qu'on doit jouer la deuxième place. Campenhardt, quand il est avec moi dans une échappée comme ça, ça marche jamais. Ça me rappelle à travers les Flandres où je pouvais jouer le top 10 et on arrivait pour la deuxième place un peu pareil. Et il n'était pas passé. Je suis déçu parce que une fois qu'il est sorti, j'ai jamais vraiment senti les mecs impliqués pour essayer de boucher l'écart. Mais je pensais que tout le monde allait continuer encore un peu pour aller jusqu'à l'arrivée. Au moins. C'est le nouveau vélo. C'est les gars, ils attaquent à 20 bandes pour une deuxième place. Il est mieux qu'on tourne tous ensemble jusqu'à 5 bandes. C'est sûr que ça allait pouvoir revenir de l'arrière d'un gros groupe. Moi, j'essayais de prendre le maximum de relais. Je n'ai pas trop pris avant, mais quand je pouvais, je passais le maximum que je pouvais. Et c'était pour essayer d'arriver au moins jusqu'aux 5 bandes, parce que je savais que si on arrivait avec 30-40 secondes, ça pouvait le faire. Là, on arrive avec 10-15 secondes et c'était terminé. Quoi.
Pas content, Wawa. Pas content, on le comprend. Hein, c'est vrai.
Raison,
que...
Il a raison. Hein. Il y a quand même le seul coureur de l'échappée qui a très bien couru, c'est Tim Wellens. Il a été gagné. Derrière, Quinn Simons, Storer, faudra qu'il se repasse, qu'il fasse de la vidéo comme en foot pour comprendre ce qu'il faut pas faire. Hein. Si on doit montrer quelque chose dans les écoles de cyclisme à ne pas faire, faut montrer la course de Storer aujourd'hui. Hein. Parce que si tu ne veux pas gagner une étape du Tour,
c'est comme
tu
ça
fais exactement
faire.
Ce qu'il a fait. Warren Barguil, lui, a été un peu à contretemps, mais il a bien couru. Et ce qui nerve surtout, surtout, c'est qu'une fois que Tim Wellens est parti, ils étaient un gros groupe. S'ils continuaient de tourner, le rattraper, ça aurait été compliqué, mais ils auraient au moins deux, pu jouer la deuxième place. Et là, finalement, c'est ce qu'on disait, ils ont fait une grosse journée, mais pour pas grand-chose au final.
Et dans un instant, dans l'After Tour, on va quand même s'intéresser à tous les autres Français et savoir si on va se diriger vers un plafond de verre et donc vers un tour sans victoire d'étape française. Le dernier tour sans victoire, c'était en 1999. On revient donc dans un instant à Carcassonne, dans notre beau camion RMC. On parlera également de la troisième semaine qui arrive, qui sera la plus copieuse de ce Tour de France, après les efforts qui ont déjà été consentis par les coureurs. On se demande dans quel état ils vont arriver à Paris dimanche prochain. A tout de suite, en direct de Carcassonne.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
19h45 sur RMC, l'After Tour jusqu'à 20h, encore pendant une petite semaine, puisque le Tour de France atteint ce soir son deuxième tiers. Il en reste donc dernière semaine qui débutera mardi par l'ascension du Ventoux. On va parler dans un instant. On revient quand même sur la prestation d'ensemble des Français. On vous le disait, Julien, troisième de l'étape, qui pensait avoir décroché la victoire. Axel Laurence, coureur de la formation Ineos, qui quasiment tous les jours montre qu'il a de bonnes jambes. Et qu'il est, à part le succès d'Arensman hier, qu'il est quand même l'un des éléments moteurs de la formation Ineos.
Il a posté un joli message sur X. Mm-hmm. Hein. Il a posté une heure après la course, envie de tout casser.
Ah,
Axel Laurence.
Ouais, il était très énervé.
Alors, énervé contre quoi? Parce qu'on a entendu Wawa il y a quelques instants.
Il a rien.
Après
précisé.
Lui.
Ouais, je pense après
qu'il
lui.
Peut s'en prendre qu'à lui-même.
Parce qu'il avait des bonnes jambes. Il a raté le coup d'ailleurs. Son équipe a roulé pour lui pour réduire l'écart avec l'échappée pour qu'il puisse faire le jump. Ça n'a pas marché dans un premier temps, mais il a réussi à rentrer après. Donc, je pense qu'il avait vraiment de très bonnes jambes, Axel Laurence, et que malheureusement, il a fait trop d'erreurs et ça lui a coûté cher dans le final.
C'est le problème un peu des autres coureurs que tu allais peut-être citer. Jordan Jegat, lui qui est 8e, voilà, qui au classement général est toujours très bien classé, et Valentin Madouas. On a l'impression que ces coureurs là, et vraiment aujourd'hui, le fait que Julien Alaphilippe lève les bras sur le final, ils sont toujours un peu à contre-courant. Il y a le petit truc qui manque, ils sont toujours dans un deuxième temps, en réaction.
Aujourd'hui, les deux seuls qui ont été dans le bon tempo, mais trop juste, c'est Clément Russo et Verchet dès le départ. Eux, ils ont pris le bon coup, mais à la première bosse, à la première cacahuète, ils sont passés par la fenêtre. Et après, tous les autres, même Warren Barguil, il était là dans le final, ils ont toujours été à contre-temps. Et malheureusement, sur une course comme le Tour de France, à l'allure où ça roule, le niveau qu'il y a, tu peux pas te permettre d'être à contre-temps. Alors, Julien Alaphilippe, on peut l'excuser, il a eu la chute au début. Axel Laurence, quand tu rates un gros coup comme ça, par exemple, avec les jambes qu'il a, je peux comprendre qu'il soit vraiment énervé, parce que lui, il aurait peut-être pu suivre un Tim Wellens, par exemple. Il a un peu les mêmes qualités que Tim Wellens. Le puncher comme ça.
Oui, mais il démarre à contre-temps.
À contre-temps, t'es mort. T'es mort. Je veux dire, on n'a pas de marge. On n'a pas de marge. Les coureurs français n'ont pas de marge. Donc, il faut courir juste dans le bon tempo et il faut avoir les bonnes jambes ce jour-là. Axel Laurence avait les bonnes jambes aujourd'hui. Il a été à contre-temps, comme Valentin Madouas, même Warren Barguil. Il est rentré dans un deuxième temps.
Donc, il a fait des efforts.
Et d'ailleurs, Warren, c'est lui qui essaye d'aller chercher Wellens et qui se rassoit. S'il n'est pas à contre-temps, peut-être qu'il arrive à prendre la roue, parce qu'il a bien vu que c'était Tim Wellens qu'il fallait surveiller. Contre-temps, ça ne marche pas.
Des coureurs français qu'on a vus pourtant victorieux dans les courses d'une semaine qui ont précédé le Tour de France, ils arrivaient à mettre au fond, et là sur le tour, bon, peut-être que le
c'est
niveau est supérieur.
C'est-à-dire que
ils ont battu des super coureurs dans le Dauphiné, dans le Tour de Suisse.
Dans la préparation des grands tours, souvent il y a deux, trois courses. Donc on divise les forces dans les équipes. On met deux, trois coureurs sur le
Dauphiné, Tour de Suisse.
Et au tour, on rassemble tout le monde. Donc la vitesse augmente, le niveau augmente. Et comme le dit Jérôme, moi je pense que nous, côté français, on peut pas faire de comparaison entre les coureurs. Un mec comme Axel Laurence, aujourd'hui, il avait super jambes. Il est à contre-temps. Ensuite, on a d'autres paramètres. Madouas, il est pas à son niveau. Sinon, ça marcherait. Il serait devant. Clément Russo, qui collabore avec les 15 coureurs, qui sont des bisons, qui met autant de relais qu'un Van Aert, et qu'à l'arrivée dans le premier talus, il passe par la fenêtre. Erreur de stratégie. Fallait pas rouler, laisser rentrer très vite un Romain Grégoire ou un Valentin Madouas. On est obnubilé peut-être aussi trop par être échappé.
mais être échappé, si c'est oui, pas pour gagner,
c'est peut-être la pression que leur mettent leur DS et leur manager.
Et après, les DS,
parce que ils regardent le nombre d'étapes qui restent et ils disent bon, on a toujours rien.
Aujourd'hui, pour beaucoup, c'était la dernière chance chez nos Français. Aujourd'hui, après, on parlera de la dernière semaine après, mais pour certains, il y en a plus. C'est fini. Certains profils, c'était aujourd'hui. Et oui, ils ont la pression de ça. Ils ont aussi la pression, et nous, on collabore à ça aussi, de dire est-ce qu'on va terminer Fanny ? Est-ce que les Français vont gagner une étape ? Parce que les Français, ils pensent à ça. Regarde, Julien Alaphilippe, ok, il ne sait pas qu'il y a les deux devant, mais il est tout content. Rick, c'est la première chose qui m'a chambré. Il dit bah, vous, les Français, vous célébrez une troisième place. Vous en êtes à là maintenant. Mais bien sûr qu'ils ont cette pression. Moi, j'ai connu ça sur un Tour de France où c'est à l'Alpe d'Huez. On montait deux fois à l'Alpe d'Huez.
Christophe Riblon
qui gagne à l'avant-dernière étape. Dis pas la pression qu'on avait sur toutes les étapes.
Ouais, c'est arrivé à Christophe Laporte aussi il y a quelques temps.
Et du coup, on courait à l'envers toutes les étapes. On voulait tellement être dans l'échappée, on voulait tellement essayer d'aller gagner qu'on courait à l'envers.
Parce que cette pression extérieure, vous la ressentez quand même au sein de l'équipe.
Bien sûr, mais
tous les coureurs.
On lit les réseaux sociaux, on lit la presse, on écoute.
Vous écoutez la radio ?
On n'a pas le temps sur le vélo. Déjà que les radios ne marchent pas pour les coureurs. Donc si on mettait en plus la fréquence RMC qui est dure à capter dans certains endroits, ce serait compliqué. Mais bien sûr qu'on la ressent, la pression. Croyez quoi, mardi matin, au départ, dans le village départ, la première question, c'est alors, est-ce que les Français vont aller gagner une étape ? Est-ce que vous allez vous échapper ? Est-ce que vous pensez pouvoir gagner en haut du Mont Ventoux ? Mais bien sûr, t'es obligé d'y penser. Et s'il y a nos coureurs français qui courent un peu à contre-temps et un peu à l'envers, c'est aussi à cause de ça.
Et moi, j'en reviens. Juste pour compléter, aujourd'hui, si Julien Alaphilippe écoute RMC, il aurait su qu'il y avait du monde devant. Bien sûr. Plus qu'avec son oreillette.
Ça, c'est clair. Et pour finir sur l'étape du jour, hier, vous m'avez fait la fête parce que j'ai parlé de Jordan Jega. Aujourd'hui, Jordan Jega, moi, il est fort, il est costaud.
Ouais.
Mais en courant comme ça, jamais, il gagnera une étape du tour. Parce qu'aujourd'hui, une fois dans l'échappée, il a pensé qu'à une chose. La place de 10 avec Rodriguez. Et tant qu'il aura ça dans la tête, et tant qu'il aura « je peux en mettre, mais quand même, il ne faudrait pas que j'explose parce que top 10, c'est top », il ne pourra pas gagner d'étape. Pourtant, je pense que c'est lui qui a les meilleures jambes des coureurs français, à part Kevin Vauclin. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Et quand on est dans une étape comme celle d'aujourd'hui, il a fait une superbe remontée au classement général. Mais s'il a une défaillance dans le Ventoux et qu'il fait 17e, c'est quand même dommage de ne pas avoir fait all-in aujourd'hui parce qu'il avait les jambes pour être devant aujourd'hui. C'est ça aussi la raison pour laquelle, quand on est français, sur le tour, c'est une pression telle que de sortir de sa zone de confort, prendre des risques, on ose à peine parce que la pression est trop forte pour certains coureurs.
Eh bien, tu vois, je l'entends. Donc je ne donnerai pas aujourd'hui le chiffre du nombre d'étapes.
Non, on va arrêter de leur mettre la pression.
Mais juste rappeler qu'Anthony Turgis avait gagné à la veille de la première journée de repos. Donc, ça fait 4 semaines désormais qu'on est sur le Tour de France.
Il est terrible. Un autre Français, lui, a couru à l'arrière. Alors, un coup, il est à l'avant, un coup, il est à l'arrière. C'est Lenny Martinez. Mais lui, bon, on a bien compris qu'il avait fait le choix du maillot à poids. Aujourd'hui, il y avait des points à faire, mais bon, il n'avait pas les jambes. Je pense qu'il se réserve un peu pour le Ventoux, Jérôme. C'est intelligent, ça.
Oui, alors il n'y avait pas beaucoup de points aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il se réserve pour le Ventoux, parce que vous pouvez prendre le début d'étape d'aujourd'hui, ça sera la même chose pour le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est une montée sèche et toute la première partie, c'est plat et il y a énormément
de vent.
S'il
y a du vent,
il va aller les chercher où les points ?
Dans les enchaînements. On gagne le maillot à poids dans les enchaînements.
La Plagne, voilà, ces étapes-là. Mais le Mont Ventoux, bien sûr, ça serait l'idéal pour lui s'il arrivait à se glisser dans le coup, parce qu'il grimpe très bien. C'est une montée sèche, donc il n'aura pas fait d'effort avant, comme on l'a vu ces derniers jours, où il va faire un rallye solo dans le Tourmalet pour prendre les points, etc. Là, il n'y a pas de points avant le Mont Ventoux. S'il est dans la bonne échappée, il n'aura pas fait trop d'efforts. Il peut gagner là-haut.
Ouais.
Mais par contre, il faut réussir à se glisser dedans. Ça va être comme aujourd'hui. Ça va castagner à bloc. Il y aura peut-être un petit peu de vent, des bordures, on ne sait pas. Et là, on voit qu'il a un petit problème de placement, Lenny Martinez. Donc, si son équipe veut le faire gagner, faut qu'il lui laisse un Mohoric et un Phil Baos avec lui.
Et Gradec,
si tu veux. Qu'il lui laisse 2-3 mecs avec lui, qu'il le place et qu'ils essayent de le lancer devant, parce que là, il peut gagner l'étape et par la même occasion, prendre un maximum de points.
Alors, gagner l'étape, je suis pas sûr, parce qu'on le voit souvent.
Oui, mais plein, le Mont Ventoux, c'est une montée sèche.
Oui,
Mont Ventoux, c'est une montée sèche. Il n'aura pas d'effort à faire avant.
Alors, Jérôme, il reste quand même des étapes de montagne, de vraies étapes de montagne derrière le Ventoux. Ce sera le cas, donc, jeudi et vendredi prochain, qui seront les deux étapes reines de ce Tour de France. Là, il y a des points à prendre avant que la bagarre ne se produise pour le classement général. Je pense notamment à celle du col de la Lauze. Il y aura quand même le col du Glandon et le col de la Madeleine qui sont tous les deux classés hors catégorie. Là, ça peut faire de gros points.
Faire 40 points.
Ouais. Ça peut faire 40 points. Je ne sais pas si ce sera doublé ensuite
à la Lauze.
À la Lauze. Ouais. Donc, bon, si c'est doublé, je pense que Poggi.
Surtout à la Lauze.
Sachant que les bruits et ce qu'on entend dans la caravane, c'est que Poggi vend tout la Lauze.
Vend tout la Lauze, c'est pour lui.
Il veut gagner.
D'accord, ok. Le lendemain, il reste une dernière étape de haute montagne.
Là aussi,
il y a plein de points. Là, on a un deuxième catégorie. Ensuite, il y a le col des Saisies en première catégorie. Le col du Pré qui est hors catégorie. Le Cormet de Roseland en deuxième catégorie avant l'arrivée à la Plane. Là, tu peux faire le plein de points. C'est dans ces deux étapes qu'il peut construire sa victoire pour le maillot à poids.
Exactement. C'est ces deux étapes-là. Il faut qu'il passe le maximum de cols en tête. Pas comme il a fait malheureusement au Tourmalet où il a passé le Tourmalet et le col d'après devant et à Peyresourde il a pas pris de points et bien sûr il était pas là à l'arrivée. Là faut en plus de prendre les points, faut vraiment aller loin dans l'étape parce que si Tadej Pogacar gagne à la Lauze qui double les points, ça va être très compliqué pour le maillot à poids. Mais c'est ces deux étapes.
Mais là j'ai une question. Faut faire le choix du grimpeur ou faut faire le choix d'une victoire d'étape?
Bah lui il a fait son choix.
Mais oui, mais peut-être qu'il peut mettre l'accent sur une des deux étapes pour aller chercher la victoire.
Alors il faut viser la Plagne, parce qu'autrement, si la Lauze est destinée à Pogacar, ça sera compliqué.
Le début de l'histoire, c'est le même. Il faut être devant.
Bon, oui. Et puis il restera une dernière étape, où peut-être tout se jouera pour le classement de la montagne. Ce sera donc la dernière étape dimanche prochain, avec 3 points à prendre sur les 3 passages au sommet de la butte Montmartre. Ce serait magnifique que le maillot à pois se joue quand même sur la dernière étape.
Là, ça sera la victoire française, peut-être l'unique avec Valentin Madouas sur ses terres, les terres des JO.
On rappelle que l'année dernière, il avait bien failli mettre au fond. Merci messieurs, voilà pour aujourd'hui. On se retrouve non pas demain, mais demain vous aurez droit quand même au best of.
Le tour ne s'arrête pas.
Semaine, et puis Jérôme seront évidemment là, Dupont.
Voilà. Avec et nous pendant ce temps-là, on préparera l'étape du lendemain.
Nous préparons la troisième semaine, c'est comme ça. Bien sûr, mais bien sûr.
Vous allez préparer demain l'étape, mais bien sûr.
Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Simon Dutin pour l'after foot. On se retrouve donc nous après-demain. Ça va, bonne journée de repos demain, mon cher Pierre-Yves. Oh, on a bien mérité,
vous aussi,
quand
chef.
Même.
Vous
allez,
aussi.
On va nager.
Bien, chef.
À après-demain.
RMC, l'after tour.